I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Sophie de Chivray, la créatrice d'Au Revoir Podcast. L'année 2022 vient de débuter et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement l'avenir du podcast. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tout le contenu d'Au Revoir Podcast. Depuis septembre 2020, j'ai créé et réalisé des dizaines d'heures de contenu et je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants, la facture elle s'élève à près de 1000 euros. C'est important pour moi de proposer du contenu gratuit pour lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, tipeee.com/overpodcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page aurevoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Et depuis quelques semaines, des étoiles, vous pouvez aussi en mettre sur la page Spotify d'Au Revoir Podcast. C'est super important de soutenir vos programmes favoris sur les plateformes d'écoute car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et ça, je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai besoin de vous et de votre aide. Je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite une belle écoute. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité. Mais elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître, que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fœtale in utero au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle Lucie, Nora, Marie ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit, même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. Eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de 3 ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche, ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance, la fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi aussi, qui aimerais envisager d'être enceinte, mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Aujourd'hui, je mets en ligne ce premier volet dans lequel elle va vous expliquer la manière dont elle a découvert qu'elle était enceinte. Ces mots, elle les a prononcés il y a un an alors qu'elle avait appris peu de temps avant sa grossesse. Sachez que depuis, son petit bébé, il est né et il va bien, même si sa naissance, elle ne s'est pas passée comme prévu. Mais c'est ça aussi, la grossesse d'après. Une grossesse qui, à l'image de toutes les grossesses, ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé.
Sophie m'a proposé de faire ce journal, ces enregistrements, pour tracer le quotidien d'une grossesse d'après. Moi, je vais rester anonyme, mais je pourrais être n'importe laquelle de ces mamans qui a perdu un enfant. J'ai perdu ma fille à 7 mois et demi de grossesse. C'est tout récent encore. C'était il y a à peine 5 mois. Et c'était il y a déjà 5 mois. Je vais pas raconter comment c'était de se relever après ça, parce qu'il y a déjà tellement de témoignages que on dit toutes la même chose. On se retrouve toutes dans les mots des unes des autres et c'est devenu une famille à laquelle on pensait jamais appartenir, une famille en fait qu'on n'imaginait même pas exister. Parce qu'on peut pas concevoir qu'un enfant, un bébé, puisse mourir. Que des fois même, un peu comme ma fille, même carrément comme ma fille, il meurt alors qu'ils sont même pas nés. Elle avait à peine 7 mois et demi, mais c'était les 7 mois et demi les plus heureux de ma vie et les plus sereins. Je veux dire, je suis toujours quelqu'un qui voit le verre à moitié vide ou qui n'est pas confiance en moi ou dans les autres. Et ça, c'était l'accomplissement de ma vie. C'était ce que j'attendais depuis longtemps, en fait. Et j'étais bien et j'avais confiance et j'avais hâte. J'avais tellement hâte. Et voilà, elle avait un retard de croissance intra-utérin qui s'est accéléré de manière dramatique sur les derniers temps. Et c'est parce que j'ai de l'hypertension. C'est ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Donc j'avais ce qu'on appelle une HTA gravidique, une HTA qui se déclare pendant la grossesse, après 20 semaines d'aménorrhée, et qui s'est compliquée d'une pré-éclampsie, donc c'est-à-dire une protéinurie, la présence de protéines dans les urines, et qui peut être gravissime, c'est-à-dire en gros ça met surtout en jeu le pronostic maternel. D'ailleurs, en général, le seul moyen de guérir de la prééclampsie, c'est de faire un déclenchement de la grossesse. Moi, on n'a même pas eu le temps. J'ai été transférée et au petit matin, ma fille était morte dans mon ventre. On n'a même pas eu le temps, alors que ma prééclampsie n'était pas si sévère que ça. Ça, c'était il y a 5 mois. Et depuis, je me reconstruis petit à petit, avec des hauts et des bas, avec des gens formidables autour de moi. J'ai vraiment eu la chance de pas avoir de gens horribles dans mon entourage. Et j'ai su me protéger correctement grâce à toutes ces mamans endeuillées que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et en fait, on est parti en vacances à la fin de l'année parce qu'on voulait pas subir les fêtes de fin d'année. On est parti dans les îles et c'était bien parce qu'on n'avait pas besoin de se forcer à être heureux. On était heureux comme on pouvait, mais on était bien, on s'est aéré, on a vu des beaux paysages, on a fait des belles balades. Et en fait, en rentrant, à peu près, même pas une semaine après, j'avais toujours pas mes règles. Alors je me disais, bon, il est peut-être long ce retour de couche, de toute façon, j'ai jamais été très normale de ce côté-là, donc c'est pas grave. J'avais fait un test de grossesse avant de partir qui était négatif, et voilà. Je décide de faire un test urinaire comme ça, en me disant, bon, bah, de toute façon, il sera négatif, c'est pas grave, on verra. Et là, le test est positif. Mes yeux savaient très bien ce que ça voulait dire, mais mon cerveau a bloqué. Il comprenait pas ce que ça voulait dire, cette croix sur ce test urinaire, j'ai complètement bugué totalement. J'ai dû regarder la notice alors que je sais très bien comment ça marche pour confirmer ce que je voyais. Et donc ça, c'était mi-janvier à peu près. Et tout s'est accéléré. Prise de sang qui confirme que la grossesse est bien avancée. J'avais eu quelques petits signes, mais rien de grave. Et surtout, voilà, j'étais pas mal stressée par le retour en avion, par le retour bientôt au travail qui allait se faire, et ça m'angoissait. Et voilà, j'avais des petites nausées, une grosse fatigue, mais rien qui pouvait me laisser dire que j'étais enceinte. Donc, rendez-vous avec la gynéco qui confirme que je suis enceinte, que ce n'est pas un œuf clair, que ce n'est pas extra-utérin, et que la datation semble vouloir dire que 2020 me réservait encore quelques surprises malgré tout ce qu'elle m'avait fait. J'avais déjà pas envie de mettre 2020 à la poubelle parce que ça avait été 7 mois et demi géniaux. Et là, là, c'était trop. C'était tellement énorme d'entendre ça. C'était plein d'émotions très ambivalentes. Être heureuse et être effrayée, avoir peur que ça recommence, savoir est-ce qu'on serait capable d'aller jusqu'au bout, est-ce qu'on y arrivera, est-ce que mon corps, qui a été capable d'être capable de donner la vie, est-ce qu'il donnera jusqu'au bout la vie cette fois-ci? Et voilà, j'ai eu un suivi, donc j'ai pas réussi à me réjouir entièrement parce que je savais pas comment gérer. Alors j'ai géré, je me suis fait un espèce de, j'ai tout de suite écrit dans un carnet ce qui me faisait peur, ce que je ressentais. Et puis après, j'ai mis les différentes étapes, parce que en fait, je peux faire que ça, voir étape par étape. Donc la première étape, c'était de confirmer que c'était intra-utérin. Ça, c'était fait. On passe à la suivante. La suivante, c'était chercher une activité cardiaque. Et on l'a passé, cette étape aussi. Donc il y avait une activité cardiaque. J'étais complètement terrorisée par cette activité cardiaque, parce que j'avais juste une seule peur. C'était de revoir un jour cette activité cardiaque s'arrêter, comme pour ma fille, 5 mois plus tôt. Et c'est toujours, je crois, le plus difficile quand je fais les échos. Et donc ma gynéco m'a mise en arrêt de travail parce qu'elle m'a dit reprendre pour un mois et demi, ça sert à rien. J'aurais dû en fait être arrêtée hyper tôt, genre à la fin du premier trimestre, pour éviter justement les poussées de tension, éviter tout ça. Et voilà, je me retrouve avec cette grossesse et ces étapes à gérer. Et là, la prochaine étape, c'est dans une semaine, c'est la clarté nucale. Alors j'ai déjà un âge pas avancé, mais on va dire que il y a 50 ans, on faisait des enfants quand on avait 20-25 ans. Maintenant, on les fait un peu plus tard. Donc moi, je suis dans la tranche d'âge juste avant 40 ans. On est beaucoup plus à risque de faire des anomalies chromosomiques et ce genre de choses. Et vu mon terrain, et vu mon verre à moitié vide que j'ai dans la tête tout le temps, je me dis, il va peut-être y avoir une merde. Donc, quand je dis une merde, c'est pas pour être dénigrant, mais il va peut-être y avoir un souci qui va nous compliquer les choses. Alors voilà, ma prochaine étape, c'est dans à peu près 10 jours. C'est cette échographie avec la clarté nucale. Et suite à ça, il y aura aussi une prise de sang pour faire ce qu'on appelle le triple test, qui permettra de déterminer si je suis à risque ou non pour une triploïdie, ce genre de choses. Donc c'est encore un stress incroyable. Surtout qu'à la première grossesse, le taux était pas si catastrophique que ça, mais comme j'étais dans une tranche un peu intermédiaire, j'ai eu droit à avoir le prélèvement sanguin à la recherche de l'ADN fœtal pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie chromosomique. Donc voilà. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Et tous les jours, c'est des hauts et des bas. C'est tous les jours, se demander comment je vais arriver à faire un pas après l'autre dans cette grossesse sans avoir peur que son cœur s'arrête. Au début, je me suis dit j'arriverai pas à m'y attacher, mais en fait, j'y suis déjà attachée. Je veux cet enfant, je le veux. J'ai promis à ma fille de lui donner un petit frère ou une petite sœur, des frères et des sœurs, et d'y arriver. Donc je vais y arriver, mais c'est un combat incroyable chaque jour contre les émotions, contre la peur, contre cette petite voix qui dit « ça va mal se passer, c'est pas possible autrement ». Il y a une toute petite voix qui me dit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle se calme un peu quand je vais aux échographies et que tout va bien, mais pour ça, il faut que tout aille bien. Et surtout, c'est que la dernière fois que pour moi, tout allait bien, bah, tout a basculé. Donc voilà, j'attends cette échographie et la suite. J'attends ça d'une manière ambivalente, c'est-à-dire j'ai peur et j'ai hâte. Parce que c'est un chemin que j'ai décidé de prendre, c'est-à-dire de combattre ma peur et d'y arriver. Parce que je ne laisserai pas ce mauvais coup du sort décréter que je ne serai pas ma... Enfin, je suis déjà une maman. Je le sens dans mes tripes. J'ai accouché de ma fille. J'ai un amour incroyable pour elle et pourtant elle n'est pas là, mais elle est partout avec moi, dans ma tête, dans mes pensées, dans ce futur que j'essaie de construire. Donc je refuse de ne pas y arriver, mais c'est un combat, un vrai combat.
Je suis Sophie de Chivray et vous venez d'écouter La découverte de la grossesse, le premier épisode de la série Journal d'une grossesse d'après. Si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau challenge du deuil périnatal. Cette fois-ci, nous parlerons d'écriture et de roman avec Pauline Laveau, l'autrice de 9 mois, 9 jours, parue en septembre dernier aux éditions Fayard. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au revoir podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.